C'est ça.
Elle est notre avocate conseil dans Dupont le matin, où on jase toujours de petits sujets qui touchent les gens ordinaires, qui touchent les gens qui sont comme nous, là, qui ont des enfants, puis qui ont eu toutes sortes de difficultés de revenus, de PCU, de gardiennage, de toutes les sortes. On va la rejoindre tout de suite, Maître Sophie Mongeon. Bon matin, Maître Mongeon.
Bon matin, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Oui, très, très bien, effectivement, là, des vrais sujets, là. Dans le fond, nous autres, on adresse les problèmes du vrai citoyen, le quotidien, là. Rien de fantastique qui se passe à tous les jours.
Ouais, puis il y a aussi, puis c'est là peut-être que il y a le gros bon sens, mais il y a également la loi. Puis ça, on ne peut pas... Je sais que dans plusieurs cas, il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ouais, mais je le savais pas. Tu sais, je savais pas la limite de vitesse à tel endroit, puis il m'a arrêté que j'allais trop vite, mais je le savais pas. Je savais pas que j'avais pas le droit de laisser, mettons, mes enfants tout seuls. » Ne pas savoir qu'on enfreint la loi, c'est pas une défense, ça, hein?
Non, l'adage est nul n'est censé ignorer la loi. Ça serait bien trop facile de tout le temps dire, ben je le savais pas, j'étais pas au courant, sinon il y aurait vraiment aucune accusation jamais. Là, ça serait l'excuse que tout le monde utiliserait. C'est l'excuse de nos enfants, hein? Je le savais pas, là.
Ouais. Fait que,
dans le monde adulte, ça tient plus vraiment la route.
Mais si mettons quelqu'un réussissait à démontrer sur un point précis, par exemple, que je sais pas, la limite de vitesse n'était pas affichée ou dans tous les. On doit toujours le savoir, hein? Les radars, ouais. On doit toujours le savoir?
Mais il y a certaines infractions qui sont strictes. C'est-à-dire que s'il y avait un arrêt, tu ne l'as pas vu, tu as passé dessus, que tu l'aies vu ou que tu ne l'aies pas vu, ça, c'est clair que tu vas être accusé tout de même. Il y a toutefois certains moments donnés où tu peux invoquer des motifs raisonnables. C'est par exemple en droit administratif, là, tu as des délais pour contester des décisions. Une trentaine de jours, là, c'est la norme. Et si tu dépasses ce délai-là, tu peux utiliser un motif raisonnable. Un motif raisonnable peut être effectivement que j'ai été induit en erreur. Voyez-vous, ça c'est un autre, ça c'est une excuse qui peut être valable. Ou j'étais en incapacité psychologique de contester, ou effectivement j'étais en incapacité point pour X raison. Fait que des fois tu peux invoquer des excuses, mais normalement, nul n'est censé ignorer la loi.
Good. Maintenant, et ça pour les enfants, honnêtement, j'ai hâte d'entendre votre réponse parce que je le sais pas. Là, on s'en va vers l'été, puis on dirait que nos enfants vieillissent toujours un peu plus vite. Moi, je l'ai vécu un peu plus tard. Là, c'est les enfants à ma blonde. On se demande, jusqu'à quel âge on peut laisser un enfant seul à la maison? Tu sais, des fois, on se dit, attends, elle a 11 ans et demi, puis elle garde déjà ailleurs. Est-ce qu'elle a le droit? Puis deuxièmement, est-ce qu'elle a le droit de rester seule à la maison? Est-ce que ça, c'est encadré par une loi également?
Pas vraiment. Ça, c'est des circonstances. T'sais, par exemple, la loi va édicter des choses de base, mais après ça, le gros bon sens prend la relève. On peut pas tout prévoir, toutes les situations, là. Fait qu'en principe, là, à quel âge on peut laisser un enfant seul? Ben, la bonne réponse, c'est 12. Mais entre 10 et 12 ans, c'est discutable parce qu'à 11 ans, c'est à cet âge-là que tu peux prendre les cours de gardiennage averti. Fait que, tu sais, tout le temps, la loi est ni blanche, ni grise, ni noire, ni blanche, pardon, elle est grise. Et ça, effectivement, entre 10 et 12 ans, c'est la partie un petit peu plus nébuleuse de l'histoire, là.
OK. Donc, c'est 12 ans la loi, mais par contre, il y a le gros bon sens qui peut s'appliquer dans bien des circonstances selon ce qui se passe. Mais
oui, c'est le degré de maturité, d'autonomie. Tu sais, par exemple, si déjà ton enfant est capable de se rendre à l'école seul, il gère ses devoirs et tout, ça, c'est des indices clairs qu'il a la capacité de rester seul. Puis, il faut faire attention aussi, là. En 10 et 12 ans, c'est se garder seul. Est-ce qu'on peut garder d'autres enfants? Ça, c'est l'autre nuance qu'il faut faire attention. Peut-être quelques minutes, une demi-heure maximum. Mais quand ça dépasse une longue période de temps et il arrive quelque chose, vous pourriez être accusé de négligence si l'enfant a moins de 12 ans.
C'est ça. Puis je vais donner l'exemple. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé plus tôt dans l'émission. On parlait de vol de véhicule. Puis on se rappelait qu'à Québec, alors que la plaque tournante de vol de véhicule, c'est chez vous à Montréal. Mais ici, c'est très rare. Mais il y a un gars qui avait volé un véhicule qui était laissé en marche. J'avais un dépanneur. Puis il y avait un enfant à bord. Fait qu'il l'avait laissé un peu plus loin. Mais est-ce le conducteur ou celui qui était responsable de l'enfant qui l'a laissé dans le véhicule, qu'une minute pour rentrer au dépanneur, il est en infraction, lui.
Ben, en principe, ça aussi, ça fait partie un peu. C'est pas il y a aucune indication dans la loi de la situation que vous venez de dire, là.
OK. Mais
dans le fond, quel âge avait l'enfant? Ça, c'est la première question. Deux, combien de temps il est rentré à l'intérieur? En principe, c'est pas supposé de laisser un enfant seul, mais on le sait qu'on va souvent laisser l'enfant dans l'auto pour aller payer aller-retour. Fait que là encore, ça serait des situations, des arguments atténuants qu'on pourrait invoquer pour dire, écoute, moi, c'est... En prenant en considération l'âge de le départ, là. Savez-vous quel âge qu'il y avait, le jeune, qui était dans l'auto?
Oui, c'est un bébé, là. C'est des bébés, c'est des enfants, là. Dans les sièges de bébés, souvent, des fois, qui dorment. Et c'est là que les parents disent, ah, je vais baisser à vite un peu, là, parce qu'on a eu aussi des histoires tragiques. Je me souviens d'un homme qui avait oublié l'enfant dans l'auto, puis qui avait été accusé, d'ailleurs, je pense, d'homicide involontaire. Je suis pas certain, mais il me semble que oui. C'est ça. Donc, c'est des bébés qui sont laissés dans l'auto quelques minutes. Puis ça, c'est, des fois, c'est trop fréquent parce qu'on dit, ah, je serai pas longtemps. Mais en même temps, on ne contrôle pas nécessairement comment ça va être long à l'intérieur du commerce.
Exact, exact. Tu sais, je pense que quand on va dans un commerce tel qu'un restaurant ou un magasin, il y a une différence à faire avec une station-service où tu rentres payé. Là. Fait que ça aussi, je pense qu'on pourrait argumenter que les situations sont un petit peu différentes. Là.
Bon, un des sujets les plus hauts, puis je veux pas qu'on déraille de ce dont on parlait, mais un des sujets les plus hauts actuellement, c'est vraiment la manque de main d'œuvre. Là, on veut réouvrir les restaurants, et tout le monde trouve ça très difficile. Les hôtels, la même affaire, la main d'œuvre est pas là. Je sais qu'on en a déjà glissé un mot ensemble, justement dans ces enfants-là, là, 12 ans ils peuvent garder des enfants, même 11 ans. Mais puis là, si t'étais tenté d'engager, par exemple, dans un fast-food ou encore à l'accueil dans un commerce, parce que faut inciter des fois les gens à se laver les mains, par exemple. Est-ce qu'on peut engager l'employeur? Et y a-t-il un contrôle d'âge, lui, où il peut engager du monde?
16 ans, c'est l'âge habituel où un jeune peut travailler par lui-même. En bas de 16 ans, il faut qu'il y ait l'autorisation de tes parents. Mm-hmm. Donc, 16 ans et plus. Mais ce qui est important, là, surtout, là, c'est si vous engagez des adolescents, c'est de prendre le temps de leur montrer les règles sécuritaires. Parce que, tu sais, même à la maison, là, on a tendance à faire ça, nous, les parents. Des fois, nos enfants vont nous poser des questions, puis on a le goût de leur répondre, mais comment ça se fait que tu sais pas ça? Tu sais, des fois, on sent cette impatience-là, mais dans le milieu du travail, les enfants, les ados, pardon, ils n'ont pas aucune notion de dangerosité. Alors, si vous engagez des jeunes de 16 ans, super important de prendre le temps de leur donner une formation.
Oui, c'est ça, parce que il peut y avoir certains risques, mais c'est très hot des encourageants. Tu sais, le jeune qui a envie de travailler à 13, 14... Là,
il manque de main d'œuvre là. L'été passé, ou là, 2 ans, je suis allé en Estrie, puis on est allé au restaurant. Les jeunes qui nous ont accueillis, là, 16 ans, je pense pas, il y avait moins que 16 ans.
À l'épicerie? Moi, je trouve que, encore hier, à l'épicerie, là, je trouvais que emballé, puis c'est parfait, là. Ouais. Je me plains pas de ça, au contraire. Ouais. Moi, quand je vois un jeune de 14 ans déterminé, puis qui est là, puis qu'il est content d'être là. Hey, à 14 ans, il gagne, je ne sais pas, de gagner 15$, je ne sais pas trop comment ça gagne, mais c'est très hot en maudit. C'est très valorisant pour l'ado aussi. Là.
Oui, mais il y a des emplois qui sont propices pour toutes les tranches d'âge. Ouais. Tu sais, je veux dire, effectivement, être gardienne à 12, 13, 14 ans, c'est un super emploi. Emballer à 14 ans, c'est un bel emploi, mais travailler dans une usine à 16 ans, ben, c'est plus discutable.
Il y a un auditeur qui nous demande à quel âge on peut laisser un ado seul pour un week-end. Moi, je dirais 21, 22.
La réponse est jamais.
C'est jamais. Ça. Mais ça, il n'y a pas le fait, quand tantôt on parlait de laisser un enfant seul, il n'y a pas le fait qu'il y ait une nuit à travers ça ou que ce soit sur une plus longue période. C'est pas ça non plus, c'est pas réglementé, hein?
Non, c'est pas réglementé, c'est encore discutable. T'sais, donc, laisser un enfant seul de 12-13 ans pendant une soirée de temps, ça convient. Mais s'il y a la garde de d'autres enfants, ça convient un petit peu moins. Donc, tout est une question de gros bon sens et c'est pour ça qu'il y a des nuances. Là, la loi, comme je vous dis, là, l'ouverture, des fois, à négocier. Là, tout dépend des circonstances.
OK. Maintenant, on est en fin de pandémie. Souhaitons s'en sortir. On semble sur la bonne voie. La vaccination a été peut-être l'élément tant attendu pour pour se sortir de cette pandémie qui aura duré plus d'un an. Maintenant, il y a des gens qui sont réfractaires à la vaccination. Puis, ce qui est surprenant, c'est il y en a quand même un fort pourcentage qui travaille soit dans des RPA, dans des aussi dans des CHSLD ou encore dans le domaine de la santé tout court, qui pourtant avaient accès à la vaccination avant tout le monde. Il y a des gens qui refusent. Est-ce que on peut les obliger à se faire vacciner ou les congédier, mais donc pour protéger la vie des autres?
Ben, la loi évolue. On a déjà discuté de ce sujet-là. Est-ce qu'un employeur peut nous forcer à être vacciné? Puis je vous avais dit clairement, la réponse était non, parce que c'est un droit qui est protégé par la charte et aussi par le Code civil. Mais comme la loi, elle évolue avec avec l'évolution de ce qui se passe, la réponse maintenant, c'est ben il y a un certain domaine qui un employeur peut forcer la vaccination, puis c'est dans le domaine de la santé. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans les urgences, les cliniques de vaccination, les centres d'hébergement de soins longue durée, eux, il y a un décret qui a été édicté qui dit tu dois absolument te faire vacciner, puis si tu ne veux pas te faire vacciner, ben faut que tu dois passer un minimum de 3 tests de dépistage de la COVID par semaine puis fournir les résultats. Fait que si tu veux pas te faire vacciner puis tu travailles dans le domaine de la santé, ben tu passes ton temps à passer des tests COVID pour voir si c'est positif ou non, là.
Okay.
Fait que c'est une façon coercitive de dire t'es comme obligé de le faire, là.
Et suite à ça, les autres actions, ça va jusqu'au congédiement, j'imagine?
Ben c'est ça. Dans le fond, tu peux refuser si tu invoques des raisons valables. C'est par exemple une question de santé ou à la limite la religion. Parce que ça, c'est des droits qui sont protégés par la charte. Mais si en bout de ligne, là, ton travail...
Excusez-moi, Maître Mongeon, je comprends vos exceptions que vous nous proposez, mais est-ce que ça existe une religion contre des vaccins?
Ben oui, on sait qu'il y a des religions qui existent indirectement qui sont contre la transfusion sanguine,
oui,
c'est dans la même lignée là.
Okay.
Donc en principe, je pense que peut-être que cette religion là, et là je ne veux pas faire aller dans cette optique là ce matin là, mais peut-être des gens de cette communauté là prévoient que c'est pas dans leurs mœurs ou dans leurs normes ou dans leurs droits ou d'accepter un vaccin là.
D'accord. Alors, ça reste encore une fois complexe, mais le gouvernement s'est ajusté parce que, évidemment, dans le domaine de la santé, il y avait un pourcentage trop élevé de gens qui refusaient le vaccin. Mais là, je pense qu'avec ça, les gens vont suivre les rangs et on va souhaiter s'en sortir. Avez-vous été vacciné, Maître Mongeon?
Oui, j'ai eu mon premier vaccin vendredi passé. Mon prochain est au mois de septembre. Je suis rentrée dans les rangs. L'objectif étant que je veux reprendre une vie normale pour le bien-être de tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose auquel je tiens vraiment? Non, moi non plus. J'aime pas vraiment ça, être obligée de avoir quelque chose qui atteint ma physionomie. Mais en bout de ligne, quand on regarde la colonne de pour et de contre, la colonne de pour est beaucoup plus grande que la colonne de contre. Alors, je suis rentrée dans les mœurs ou dans les lignes, là, si vous me permettez. Là.
Est-ce que, puis je pense que c'est oui la réponse, là, mais si une entreprise privée décide de charger plus cher pour l'accès à un événement des gens non vaccinés et charger moins cher des gens vaccinés, ça se peut, ça, j'imagine? Dans une entreprise privée, il ne doit pas avoir de loi contre ça?
Moi, je pense que non.
Non, hein?
Moi, je pense que non. Tu peux pas faire vraiment de distinction. Je pense que tu peux faire la distinction entre si tu es vacciné ou non, mais je pense pas que tu peux charger plus cher ou moins cher parce que finalement, c'est une question monétaire. Alors, l'objectif, ce n'est pas monétaire, c'est plutôt de la santé. Fait que là, ça va un peu à l'encontre de l'objectif. Donc
ça fait
de la ségrégation, selon moi. Là.
Je peux t'empêcher de rentrer si t'as pas tes deux doses, mais je peux pas te charger plus cher. Grosso modo, ça serait ça la logique.
Ben moi, ça c'est une opinion purement personnelle.
Oui,
moi, c'est ce que j'en pense personnellement, que tu peux pas faire de distinction à ce stade-ci là.
Moi, j'ai trouvé très hot, en tout cas, mes grands flambous là, qui sont sortis du sol 15 minutes la semaine passée, puis qui m'ont dit « Hey, Pop, ça, on va se faire vacciner là, pour toi ». Fait que, tu sais, eux autres, il n'y avait pas tant d'intérêt, puis tu sais, les jeunes ne sont pas tant sensibilisés à ça. Ils connaissent pas personne qui a été malade. Fait qu'ils s'en sacquent, tu sais, fait que, ben, ils s'en sacquent un peu, mais pour moi, j'ai trouvé ça très hot, qu'ils disaient « Hey, on fait ça pour toi ». Fait que, pour toi, puis pour leur mère, puis ils ont des grands-parents d'un côté qui sont toujours vivants, fait que... Il y a ce côté-là que j'ai trouvé très hâte d'eux autres. Oui, Maître Mongeon.
C'est très, très bien. Donc, c'est un peu ça le principe. On est allé au départ sur le volontarisme. Puis, pour s'assurer que dans le domaine de la santé, que les usagers soient bien protégés, c'est pour ça qu'on a fait un arrêté ministériel. Donc, le 9 avril, il y a eu un document officiel du gouvernement là, qui a été fait par Christian Dubé, qui dit, écoute, dans le domaine de la santé, tu es obligé de te faire vacciner. Si tu te fais pas vacciner puis tu refuses, il faut que tu passes 3 tests COVID. Puis si tu refuses encore, ben à ce moment-là, il y a une gradation un peu dans les sanctions. Fait que si tu es refusé, par exemple, si vous refusez, là, puis votre employeur dit « j'aimerais vraiment ça », ben tu dis « moi, je veux pas », vous pouvez te demander d'être accommodé à un autre poste. OK? Donc, c'est pas noir ou blanc encore, là. Donc, si vous voulez pas, vous pouvez être accommodé. Puis, si l'employeur peut pas vous accommoder ou ça n'a juste pas de sens, il y a trop de contraintes excessives, là, c'est à ce moment-là qu'on pourrait vous refuser de réintégrer votre travail et être suspendu sans solde.
OK. Maître Mongeon, en terminant, si des gens voudraient rejoindre votre mouvement, là, parce que vous représentez un groupe d'avocats qui peut répondre à des questions assez simples des gens, comment on fait pour vous rejoindre?
Mais vous contactez le 1-855-MAÎTRE. Dans le fond, il y a toujours quelqu'un qui vous répond, qui vous guide, puis vous donne de l'information de base. Puis sinon, on vous réfère à des avocats dans votre région qui peuvent répondre à vos questions puis prendre en charge votre dossier, là. Donc, c'est un service de référencement où on vous met en contact avec l'avocat qui vous convient le plus, là.
Et ça, c'est gratuit?
Oui, ça, c'est gratuit. Le service de jumelage est gratuit. Mais bien sûr, après ça, le service d'avocat ne l'est pas. Mais c'est toujours on a une banque d'avocats qui sert le citoyen. Parce qu'il y a une différence, hein? Des avocats, là, t'as un peu des gens qui vont faire du corporatif ou comme en droit du travail, t'as des avocats qui vont faire de l'employeur. Moi, je fais du travailleur. C'est une très, très grosse distinction, là. Donc, quand vous cherchez un avocat, il faut savoir c'est qui, sa clientèle source, là.
Exact. Puis c'est pas le même avocat qui va te défendre pour un ticket que pour un vol à main armée ou encore pour un litige avec ton employeur. Ce sont des catégories très, très, très distinctes et c'est de là où vous allez enligner les gens vers le bon endroit.
Ben effectivement, on est un peu comme des médecins, hein, les avocats. Un orthopédiste va réparer ton bras cassé, mais c'est un problème de cœur, tu vas aller voir un cardiologue, là, ça se mélange pas, ça, là.
Ouais, la seule différence avec les médecins, c'est que vous prenez pas la carte soleil.
Non, mais on a accès à l'aide juridique quand même, un service qui permet d'avoir accès à un avocat à moindre coût.
Merci, Maître Mongeon. À bientôt.
Bye bye, bonne semaine.
Au revoir, bonne semaine à vous. Maître Sophie Mongeon, donc 1-855-MAÎTRE pour le référencement.